Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce jeudi 30 janvier. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal Les Sports et le journal de l'économie australienne. Et au sommaire de ce bulletin, la police de Nouvelle-Galles du Sud enquête sur une école juive de la banlieue est de Sydney qui a été taguée de graffitis antisémites pendant la nuit. Le Mount Sinai College est une propriété et une propriété voisine à Maroubra ont été pris pour cible. De nouvelles données suggèrent que plus de 80% des femmes envisageraient de quitter leur emploi si leur employeur ne prenait pas le harcèlement sexuel au sérieux. Aux États-Unis, les autorités de la Nouvelle-Orléans renforcent les mesures de sécurité à l'approche du Super Bowl de la NFL et du Mardi Gras qui doivent se dérouler dans la ville le 10 février prochain. La police de Nouvelle-Galles du Sud enquête sur une école juive de la banlieue est de Sydney qui a été taguée de graffitis antisémites pendant la nuit. Le Mount Sinai College et une propriété voisine à Maroubra ont été pris pour cible. Un mur a été tagué avec les mots, je cite, « Les juifs sont de vrais terroristes ». Fin de citation. Le président du Conseil des députés juifs de Nouvelle-Galles du Sud, David Ossip, a déclaré que les graffitis étaient épouvantables. Et puis une enquête majeure est en cours sur la découverte d'une caravane dans le nord-est de Sydney chargée d'explosifs et d'une note avec les adresses de personnes et d'institutions juives. La police de Nouvelle-Galles du Sud a confirmé que le véhicule avait été retrouvé par un résident dans une propriété de Dural le 19 janvier dernier. Le propriétaire de la caravane a été placé en garde à vue. La police affirme qu'il s'agit de l'une des nombreuses arrestations effectuées en marge de l'enquête sur la découverte le 19 janvier dernier. La commissaire de police Karen Webb affirme que certaines des personnes arrêtées seraient liées à d'autres attaques antisémites présumées, mais pas à cet incident. Elle affirme que les responsables des explosifs et de la lettre de menace découverte dans la caravane il y a 10 jours sont toujours en liberté.
All of these matters are still under investigation. There are many, many more lines of inquiry. It is a joint investigation with our federal counterparts and our state counterparts, including the New South Wales Crime Commission, ASIO and others. And we will update when we have information to provide the community. But can I just reassure the community, we are doing everything possible. We are not leaving a stone unturned in this matter.
Les dirigeants juifs d'Australie ont exprimé leur inquiétude donc face à cette série d'attaques visant leur communauté en Australie. Et des voitures ont été incendiées, une synagogue a été incendiée et des insultes antisémites ont été peintes sur des bâtiments et des voitures dans une série d'incidents qui ont augmenté en fréquence et en gravité depuis décembre dernier. L'ambassadeur d'Israël en Australie, Amir Maimon, a déclaré qu'il restait profondément préoccupé, bien qu'il ait été assuré que toutes les mesures étaient prises pour protéger la communauté. Le co-PDG du conseil exécutif de la communauté juive australienne, Peter Wertheim, a déclaré qu'ils étaient préoccupés mais en colère à propos de ces attaques qui, selon lui, font honte à notre pays et nous rabaissent en tant que nation.
We are seeing that the Australia that we have been fortunate enough to live in ourselves, a land of freedom, fair-mindedness, civilized norms of behavior, and the rule of law is starting to slip away from us and from our children and from future generations. And the authorities and our civil society leaders seem to be powerless to arrest the trend.
Un homme va comparaître aujourd'hui devant le tribunal pour avoir vandalisé le siège d'un député de Sydney. La police affirme que l'homme de 58 ans a été arrêté après que des agents en patrouille à Marrickville ont vu un homme taguer le mur d'une entreprise à proximité. Ils l'accuseront d'être responsable de la peinture au pistolet sur le bureau électoral de la ministre des Transports, Jo Hallen, hier matin. Il s'agit du deuxième incident de vandalisme de ce type au bureau de Mme Hallen en une semaine, le premier étant un message antisémite tagué sur le mur de son bureau le week-end dernier. Le gouvernement fédéral a déclaré avoir la confirmation que l'Australien Oscar Jenkins n'est pas mort en Ukraine, malgré des rapports auparavant affirmant le contraire. L'ambassadeur de Russie en Australie aurait déclaré aux autorités qu'il était détenu par des membres des forces armées russes et qu'il était vivant. De nouvelles données suggèrent que plus de 80% des femmes envisageraient de quitter leur emploi si leur employeur ne prenait pas le harcèlement sexuel au sérieux. Une enquête menée par l'Organisation nationale de lutte contre la violence, Our Watch, a révélé que 83% des femmes et 67% des hommes quitteraient leur emploi pour des raisons d'égalité et de sécurité, tandis que 75% des femmes contre 44% des hommes considèrent l'approche d'un lieu de travail en matière d'égalité des sexes comme un facteur important à prendre en compte pour rejoindre une entreprise en premier lieu. Et bien pour obtenir de l'aide, appelez le 1-800-737-732 ou le Service national d'assistance et de réparation des abus sexuels au 1-800-211-028. Aux États-Unis, les autorités de la Nouvelle-Orléans renforcent les mesures de sécurité à l'approche du Super Bowl de la NFL et du Mardi Gras qui doivent se dérouler dans la ville le 10 février prochain. Les nouvelles mesures comprennent l'installation de barrières limitant l'accès à Bourbon Street dans le quartier français. La surintendante de la police de la Nouvelle-Orléans, Anne Kirkpatrick, a déclaré que ces mesures ont été motivées par l'attaque meurtrière du Nouvel An qui a fait 14 morts.
We're going to have an incredible Super Bowl. We're going to have a great and fun time. And then followed by Mardi Gras. This is a safe city. We've had a tragic event. And we will never forget what happened here. But we know and are confident that our plans are good.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné le soutien du milliardaire Elon Musk au parti d'extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne. Scholz affirme que Musk nuit au développement démocratique de l'Union européenne avec ses actions en faveur du parti d'extrême droite qui arrive en deuxième position dans les sondages avant les élections.
So as a social democrat, I'm used to rich media entrepreneurs that intervene in politics in Germany. They started in 19th century. They did during the Weimar Republic and also in the Federal Republic of Germany's history. So that's not new. And if you look at the print press in Germany, you will see that there are many billionaires that also intervene in politics. That's not new. What is new is that he is intervening in favor of right-wing politicians all over Europe. And this is really disgusting.
Une enquête est en cours pour déterminer ce qui a déclenché l'incendie qui a ravagé un avion en Corée du Sud, forçant l'évacuation de l'équipage et des passagers. Le ministère des Transports du pays n'a pas encore commenté la cause possible de l'incendie, mais l'agence de presse locale Yonhap a rapporté que l'incendie a commencé à se propager après que de la fumée noire s'est dégagée du compartiment supérieur de la rangée arrière de l'avion alors qu'il se préparait à décoller pour Hong Kong depuis l'aéroport international de Gimhae. L'incident survient un mois seulement après qu'un avion de ligne en Corée du Sud s'est écrasé à l'aéroport international de Muan, tuant tous les passagers à l'exception de deux des 181 personnes à bord. En République démocratique du Congo, le M23 et l'armée rwandaise ont pris position dans la plupart des quartiers de Goma. La situation humanitaire est extrêmement inquiétante selon l'ONU, annonçant que la distribution d'aide alimentaire a dû être suspendue en raison de la situation sécuritaire. La ville de Goma compte environ 1 million d'habitants et autant de déplacés. En Australie à nouveau, et une nouvelle étude a révélé que des changements de style de vie dans 4 domaines clés pourraient retarder l'apparition de la démence. Près de 420 000 Australiens vivent avec la démence et le professeur Henry Brodaty du Center for Health Brain Aging de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud affirme que 45% du risque est lié à des facteurs environnementaux. Il affirme que le premier essai mondial du centre visant à tester des changements potentiels dans des domaines tels que l'alimentation, l'exercice et l'entraînement cérébral a permis d'améliorer la cognition chez les personnes âgées, ce qui pourrait retarder l'apparition de la maladie d'environ 12 mois. Il affirme que leur intervention devrait être étendue et déployée à l'ensemble de la population.
We know that delaying dementia reduces the number of cases because dementia is largely a disease of late life. So if we push it backwards and backwards until the end of life, and so a one-year delay would reduce the number of cases by 10%.
L'inflation en Australie est inférieure aux attentes selon les derniers chiffres de décembre. L'inflation est tombée à 3,2% par an, mais la moyenne tronquée a augmenté de 0,5%. La ministre des Finances, Katie Gallagher, a déclaré que même si des efforts substantiels ont été faits pour réduire l'inflation, il est encore trop tôt pour dire si ces chiffres aboutiront à une baisse des taux d'intérêt. Le trésorier Jim Chalmers déclare que le défi de l'inflation laissé par l'ancien gouvernement de la coalition est désormais derrière nous.
These are very welcome developments. We don't pretend that it's mission accomplished on inflation, but we are making very substantial progress. Now, on every measure, we have now made substantial and sustained progress in this fight against inflation.
La contribution du charbon au réseau énergétique australien est tombée à un niveau historiquement bas. Les derniers chiffres de l'Australian Energy Market Operator montrent que l'énergie produite à partir du charbon a contribué à moins de 50% au réseau électrique principal australien pour la première fois au cours du dernier trimestre de 2024. On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 38 degrés. Adélaïde, 27. Melbourne, 22. Hobart, 23. Canberra, 27. Sydney, 26. Brisbane, 32. Darwin, 33. Et à Alice Springs, un maximal de 40 degrés. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports en compagnie de Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute avec du football et la Ligue des Champions. Dernière journée de la phase préliminaire de cette Ligue des Champions. Il y avait 18 matchs, alors pardonnez-moi, mais je vous donnais les résultats. Le PSV Eindhoven qui bat Liverpool ce score de 3-2. Bayern de Munich qui bat Bratislava ce score de 3-1. Leverkusen, le Bayern Leverkusen, la surprise de l'année dernière qui bat le Spartak Prague sur le score de 2-0. Dortmund qui bat Donetsk sur le score de 3-1. Arsenal est allé battre Girona sur le score de 2-1. Atalanta Bergame contre Barcelone, et bien c'est un match nul, 2-2. Manchester City, ce qui intéresse beaucoup les Parisiens, Manchester City qui bat le club Bruges des Belges, donc de Bruges, au score de 3-1. Le Real Madrid qui bat Brest sur le score de 3-0. D'ailleurs on écoute Thomas de Saint-Léger sur ce match.
C'est
talent,
la classe.
Supérieur, la classe, exactement. Et le mot n'est pas du tout galvaudé. Le pragmatisme, j'ai les statistiques sous les yeux. 14 tirs madrilènes contre 21 tirs brestois. Et à l'arrivée, ça fait 3-0 pour le Real. Voilà. Et vous avez eu deux grands joueurs dans deux parties du terrain. Rodrigo, qui, même si Bellingham a reçu le trophée d'homme du match, est pour moi le joueur décisif de la rencontre, parce qu'il a ouvert le score et parce qu'il il a fait très mal tout simplement au défenseur lillois, et qu'il a inscrit ensuite un doublé, le troisième but. Et puis Thibaut Courtois, même si il était un peu court, Thibaut Courtois, sur le but refusé à Ludovic Ajorque, à 1-0 et à 2-0, il sort des situations chaudes devant son but. Je pense notamment à cette frappe de Kenny Lala que tout le monde a vu au fond, mais il s'est détendu de tout son long, le grand Thibaut Courtois, et il a permis à son équipe de garder le score à ce moment-là de la rencontre. Voilà, des très grands joueurs à des postes clés face à une très bonne équipe. Ça peut parfois donner une addition salée, et c'est le cas ce soir, même si tous les Brestois, je pense, seront fiers de ce qu'a montré leur équipe.
Thomas de Saint-Léger, le reste des matchs de la journée. Lille qui bat Feyenoord sur le score de 6-1, un gros score pour les Lillois. Zvezda qui bat les Young Boys, club suisse, donc des Young Boys, sur le score de 1-0. Benfica qui bat la Juventus sur le score de 2-0. Aston Villa bat le Celtic sur le score de 4-2. Monaco perd contre l'Inter Milan sur le score de 3-0. Zagreb, le Dynamo de Zagreb qui bat Milan, le AC Milan, sur le score de 2-1. Graz qui bat Leipzig sur le score de 1-0. L'Atlético Madrid qui bat Salzbourg sur le score de 4-1. Bologne et le Sporting de Lisbonne font match nul sur le score de 1-1. Et le Paris Saint-Germain qui bat Stuttgart sur le score de 4-1. Alors, ce que ça fait au résultat, pour simplifier, eh bien, tous les clubs français sont qualifiés pour les barrages. C'était plus ou moins inespéré avant le début. Donc, c'est plutôt un bon résultat. Écoutez Sofiane Amazian pour RFI.
Les 4 clubs français engagés dans cette Ligue des Champions poursuivent l'aventure. Ils ne sont pas éliminés en phase de Ligue. On n'aurait peut-être pas imaginé ça il y a quelques semaines. Il y a un autre pays qui fait des cartons pleins. Alors là, c'est un peu plus évident. C'est l'Angleterre. Je voulais que, Baptiste, que vous parliez sur Manchester City. Ils étaient 25e. Ils étaient éliminés avant
une bonne partie de la soirée.
Ouais, ça. Ils étaient menés par Bruges et finalement ils ont retourné la situation.
Exactement. Il y avait 1-0 pour Bruges à la mi-temps. On voyait vraiment les citizens.
Du Nigérian Onyedika, ouais.
Exactement. Et on voyait les citizens déjà dehors à ce moment-là. On les voyait mal dans l'état actuel de leur performance, de leur confiance revenir. Et bah finalement, ils ont mis 3 buts, 2 en l'espace de 10 minutes, puis un troisième un petit peu plus tard, ce qui leur a permis.
Mais pour moi, ça reste une équipe vraiment malade. Hein. Il y a plus de série, il y a plus de maîtrise, il y a
ça
plus
peut tomber
de marge
d'un côté ou l'autre à chaque fois.
Et voilà.
Fait.
On sent qu'elle ne tient pas grand-chose, cette équipe. Ça joue un peu sur des éclairs de talent. On l'avait vu contre le PSG avec des éclairs de Grealish qui étaient rentrés. Mais globalement, il n'y a plus la force, la moelle qu'elle avait lors de ses plus grandes saisons.
Il va falloir se réveiller dès le prochain tour, puisqu'on l'a dit, en barrage, ce sera soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich.
Là, ça pardonnera pas.
Sofiane Amazian pour RFI. Voilà pour la Ligue des Champions. On part maintenant en Afrique, qui est le tirage de la CAN qui est à venir, avec une belle affiche. Donc, cap la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et un très beau tirage, un très beau match en vue dans les matchs de groupe. La Côte d'Ivoire jouera le Cameroun, Youen Gourlay.
En Côte d'Ivoire, le tirage au sort a réveillé la vieille rivalité qui existe entre les Ivoiriens et les Camerounais. Deux pays qui se sont maintes et maintes fois rencontrés lors des différentes compétitions. À Abidjan, l'ambiance est à la taquinerie, comme avec Aboubakar Soumaoro, supporter des éléphants.
Le Cameroun ne nous effraie pas. Au contraire, depuis qu'il y a eu le tirage au sort, les Camerounais ne dorment plus. Mais les Camerounais, ce sont nos enfants, ce sont nos petits. C'est comme une famille.
Une vraie famille, puisque les deux pays se surnomment même la belle famille. Un surnom qui date des années 2000, lorsque l'attaquant camerounais Samuel Eto'o s'est marié avec l'ivoirienne Georgette Tralou. Les deux pays cultivent leur lien culturel, leur fraternité et leur rivalité sur le terrain. Pour le supporter ivoirien Bill Wallace, il faudra forcément se méfier des Camerounais, 5 fois champion d'Afrique et capable du meilleur comme du pire.
On se rappelle une année où Eto'o a dit qu'il rentrait en Côte d'Ivoire pour faire dormir. Les Ivoiriens vont dormir à 19h. Effectivement, on a dormi à 19h et ça nous a fait mal. Dans cette rivalité-là, elle existe. On doit en tenir compte. Quand le Cameroun joue contre la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Mon souhait le plus absolu, c'est qu'on doit les battre et sortir tête haute de cette poule-là.
Ce tirage au sort portera peut-être chance aux champions d'Afrique en titre. La dernière fois que la Côte d'Ivoire a rencontré le Cameroun en phase de poule d'une CAN, c'était en 2015. Cette année-là, les éléphants avaient battu les lions indomptables et avaient même remporté leur deuxième étoile africaine.
Yoann Gourlet pour RFI. Allez, on fait un retour sur le handball et la France qui a battu l'Égypte 34-33. Un petit point à 0,02 seconde du coup de finale. Oui, 0,02 seconde, autant dire sur le coup de sifflet final. Et c'est plutôt un soulagement pour le capitaine français Ludovic Fabregas.
C'est quelque chose d'énorme déjà. On a une première mi-temps où on est assez dominateur, la deuxième où on est devant, mais c'est quand même difficile. Malgré tout, l'équipe tient bon, elle s'accroche, elle donne tout ce qu'elle a. Et sur cette dernière action, Loulou arrive à trouver la mire et c'est fantastique parce que c'est à l'image aussi de ce qu'est Loulou, à savoir quelqu'un de dévoué pour l'équipe, et le fait qu'il marque ce but-là, qu'il nous qualifie pour les demi, c'est quelque chose de grand. L'équipe n'a pas lâché, on a utilisé le ballon comme on pouvait au mieux. Et ce soir, ça nous sourit, et tant mieux, il faut qu'on en profite. On a vécu quelque chose de dur il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est nous qui marquons au buzzer.
Ludovic Fabregas, voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Vos conversations. SBS French.
On retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on parle de l'inflation, le taux d'inflation qui est tombé cette semaine. Quelles seront les probables conséquences pour l'économie australienne?
Oui, c'est ça. Donc, l'inflation est tombée à 3,2%. C'était à 3,6%, le core inflation, on peut dire. Et donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est en fait le niveau le plus bas depuis 3 ans, depuis 2021, selon le Bureau australien des statistiques. Et ce que ça veut dire, c'est plusieurs choses. C'est que d'abord, si l'inflation baisse, c'est que les prix devraient monter moins vite pour les gens quand on fait des courses, mais aussi la probabilité que la Banque centrale va couper le taux d'intérêt vient de monter. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a une chance, à peu près 83% de chance, selon le marché, que la Banque centrale va couper le taux d'intérêt en février. Et selon l'économiste en chef de EY Oceania, Cheryl Murphy, elle dit que le taux d'inflation, c'est pas la seule chose qui compte. Il y a d'autres choses comme le marché du travail et l'inflation à l'international et d'autres tensions géopolitiques et le risque des tarifs par l'administration de Donald Trump. Mais quand même, il faut dire que c'est une très bonne indication, la meilleure qu'on a pour le moment, que finalement la Banque centrale peut commencer à couper le taux d'intérêt après avoir longtemps laissé monter le taux d'intérêt, et maintenant c'était stable depuis un moment. Donc ça, ce serait aussi une très très bonne nouvelle pour le gouvernement, parce que s'ils peuvent dire voilà, on contrôle l'inflation maintenant et la Banque centrale va couper le taux d'intérêt, et ben ça va aider les gens. Ça va lever un peu de la pression sur les gens s'ils ont moins d'argent à repayer pour leurs prêts aux banques parce que le taux d'intérêt est monté et est baissé. Et ben ça va aider les gens et ça va leur laisser un peu d'argent de plus dans la poche. Et le gouvernement, bien sûr, serait très content de voir ça juste avant des élections. Donc faut attendre février encore pour que la Banque centrale se décide, mais on peut dire que ça, c'est une très bonne indice.
Et puis, on pourrait avoir des cartes de crédit sans les 16 chiffres uniques d'identification, c'est ça?
Oui, c'est ça. Quand on regarde une carte de crédit, il y a toujours les 16 chiffres qui sont uniques à nous. C'est les Fauchis qui identifient notre carte de crédit. Et là, on pourrait bientôt voir la fin de ces chiffres-là. On voit qu'il y a la banque AMP qui a annoncé un partenariat avec Mastercard pour faire exactement ça. Donc, ils vont commencer d'abord avec des cartes de crédit ou des cartes de débit pour les petits commerçants, mais après pour d'autres clients. Et il y aura donc plus de chiffres uniques du tout identifiant sur ces cartes. Et ce sera la première fois en Australie. Alors, on peut se demander comment ça va marcher alors. Et en fait, ils disent que au lieu d'avoir les chiffres statiques et permanents sur la carte, les clients vont obtenir leurs détails à travers l'application de la banque. Et quand ils ont besoin de quelque chose, ils auront sur l'appli et il y aura là les numéros. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la sécurité pour les clients, mieux les protéger de la fraude, des arnaques, des escroqueries, parce qu'il y aura plus de vérification. Et si on perd la carte, ben, il n'y aura pas immédiatement tous les numéros dessus. Les gens ne vont pas pouvoir utiliser la carte immédiatement. Donc, l'application aura aussi d'autres moyens pour identifier les gens, des façons biométriques qu'on a déjà, par exemple, avec les passeports. Tout ça pour empêcher le vol d'identité. Et on c'est pas sûr que toutes les cartes de crédit vont devenir comme ça, mais c'est assez probable. Si ça, c'est la première carte à le faire, si ça marche, on pourrait bien voir toutes les autres cartes qui vont suivre ça, en particulier si on voit que c'est vrai qu'il y a moins de fraude, plus de sécurité pour les gens quand ils perdent ou fassent voler leur carte de crédit.
Merci Nicolas et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Choisissez sbs.com.au/French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités. Participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/French.
h 27 minutes et 45 secondes, vous écoutez le programme en français et je passe maintenant l'antenne à notre collègue Marianne Murat qui vous présente les films, les documentaires, les téléséries sur SBS On Demand.
Don't miss the major survey of New York-based artist Julie Meritu at the Museum of Contemporary Art Australia. Experience over 80 paintings, drawings and prints by one of the most significant painters of today as part of the Sydney International Art Series. Erupting with colour, line and energy, Meritu's work unravels urgent issues of revolution, migration and climate change. Now on until 27th of April, exclusive to Sydney. Tickets at mca.com.au.
What's on SBS On Demand? Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenus francophones. What's on SBS On Demand, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes-annonces de films, séries et même documentaires pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que vous réserve le mois de janvier? C'est parti! « Ce mois-ci, il n'y a pas de série ni de documentaire. Vous pouvez toujours retrouver ceux des mois précédents. Mais il y a 4 films francophones que l'on vous conseille. À commencer par Annie Colère, Annie's Fire en anglais. L'histoire d'un combat qui a changé la société, celui de l'avortement. Annie, jouée par Laure Calamy, souhaite mettre un terme à une 3e grossesse non désirée. Elle rencontre alors le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Mais en 1974, Annie va rencontrer autant d'alliés que d'opposants et va trouver dans la bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.
Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, 2 oiseaux, 3 oiseaux font du beau temps.
Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles ?
Annie. J'ai 2 enfants.
Est-ce que t'as déjà avorté ?
Une fois.
C'était avec quoi ?
Des aiguilles à tricoter.
Tu veux le garder, c'est ça ?
Mon mari dit que c'est pas possible.
Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution !
Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage, toute cette tendresse.
On peut pas s'occuper de toutes les femmes.
Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du MLAC sur tout le territoire.
Vous vous trompez de combat avec vos avortements, là.
On agit concrètement pour les femmes.
Si c'est ça qui te fait problème, il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps.
Je veux que ma fille elle puisse avorter si elle a besoin. Les filles, elles ont besoin de moi. On est en train de gagner, là. Tu te rends compte de ça ?
Non, on n'a pas besoin de toi, nous.
On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi.
Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip.
Je comprends.
Pour Laure Calamy, l'actrice principale, c'est une histoire jamais vue au cinéma. Un message fort et puissant. On écoute Laure Calamy.
Mon personnage, justement, c'est un personnage qui est non sachant, en fait, de tout un tas de choses, qui dit, moi, la politique, voilà, et qui est d'un coup d'un milieu modeste, c'est une ouvrière à l'usine, par un événement intime à elle, qu'elle doit avorter, va découvrir d'un coup toutes ces femmes, ce mouvement, ce collectif, et par quelque chose qui se passe dans le film qu'on ne dira pas, va être amenée à participer à tout ça. Et d'un coup, ça va être un bouleversement pour sa vie, son corps, pour sa pensée, parce que d'un coup, elle va avoir accès à elle-même, elle va réinventer sa vie. C'est ça que je trouve très beau dans le film, c'est qu'il y a des choses qu'on n'aura jamais vues au cinéma, une histoire dont on n'a jamais parlé, et je trouve qu'il y a quelque chose de très solaire, de très lumineux, et qui donne envie de se battre, parce qu'on voit qu'effectivement la lutte collective peut donner, on peut faire pression comme il le faisait à l'époque en disant voilà, nous on le fait pas clandestinement. Ça paraît infaisable, ça paraît de l'utopie. On voit qu'on peut faire passer une telle loi dont c'était pas du tout le projet de ce gouvernement qui était plutôt réactionnaire de Giscard d'Estaing, enfin pas du tout dans ces idées-là, quoi.
Autre film de société poignant, c'est Saint-Omer, sorti en 2022, inspiré d'une histoire vraie, celle de Fabienne Cabou, qui, en 2013, a abandonné sa fille de 15 mois sur une plage de Berck-sur-Mer à marée montante. Vous vous souvenez peut-être de ce fait divers. Eh bien, le film Saint-Omer décrit le procès.
Vous êtes accusée du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille ?
Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre.
Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman ? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi ?
Non, je peux pas.
Tu pourrais faire un effort, quand même.
Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger.
La protéger de quoi ?
De la malveillance.
Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant.
Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur ?
C'est une fabulatrice.
Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle.
Comme qui ?
Comme ma mère.
C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme.
d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable.
C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie.
Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains.
Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous.
La réalisatrice Alice Diop signe ici sa première œuvre de fiction. Elle qui était jusque-là une habituée du documentaire. Pour elle, tout est politique.
Toute ma vie est politique, c'est-à-dire ce que je défends, ce que je suis, ce que je travaille, ce que je fais. Je veux dire, mais c'est 25 ans de décision de faire du cinéma qui s'incarne dans cette volonté de dire c'est fini. En fait, on ne se taira plus. Maintenant, on va parler. Maintenant, on va filmer. Maintenant, on va mettre en scène nos récits. Maintenant, mais c'est aussi, voilà, nous, si on est prêt à plus se taire, est-ce que vous êtes prêt à accueillir? Enfin, il y a aussi tout ça dans cette question, en fait.
Voilà, c'était Alice Diop, la réalisatrice du film Saint-Omer, qui a reçu le César du meilleur premier film en 2022, ainsi que le Grand Prix du jury de la Mostra de Venise. Dans la sélection de janvier, il y a aussi le film Laissez-moi, Let Me Go en anglais, l'histoire d'une maman dévouée qui consacre toute sa vie à son fils handicapé, mais qui s'offre une fois par semaine une parenthèse dans sa vie de femme isolée en s'abandonnant dans les bras d'inconnus choisis au hasard dans un refuge de montagne. Mais voilà, un jour elle tombe sous le charme de l'un d'eux et tout va se compliquer, tout va s'accélérer. Laissez-moi est un film élégant, subtil, émouvant, tendre et magnifiquement interprété par Jeanne Balibar, un succès pour ce premier long métrage signé Maxime Rapaz. Et enfin, Lie With Me ou Arrête avec tes mensonges d'Olivier Perron, l'histoire d'un célèbre écrivain qui retourne dans sa ville natale après 35 ans et qui se lie d'amitié avec le fils de son premier amour, un coup du hasard que les deux hommes se rencontrent et qui le replonge dans ses souvenirs encore vifs et douloureux.
Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage ?
Oui.
Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu.
35 ans, depuis que je suis parti en fait.
Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt.
Bonsoir, enchanté. Bonsoir. Votre nom ?
Andrieux, Lucas Andrieux.
Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée.
Il y en a pas eu 150, hein. C'était mon père, je pense. Vous le connaissez bien ?
Comme ça.
Faut te dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes.
Allez, viens.
La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père ?
Qu'est-ce que tu fous, là ?
Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer, moi, je resterai.
Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi.
La seule fois où il s'illuminait, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui, pour vous ?
Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre ?
Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça ?
Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ?
Je suis très mal à l'aise, alors on se calme !
Stéphane, tu as ta vie qui t'attend. Et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là.
Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Explique-moi.
Tout va bien. Je te dirai plus tard.
Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père.
Le film Arrête avec tes mensonges est directement tiré du livre éponyme sorti en 2017 et écrit par Philippe Besson qui a été vendu à plus de 165 000 exemplaires. C'est peut-être pour ça que le titre vous dit quelque chose. Plus qu'une simple histoire d'amour, Arrête avec tes mensonges raconte la difficulté de vivre son homosexualité dans les années 80 et l'impossibilité de s'affranchir des attentes imposées par son entourage familial. Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection des sorties cinéma du mois de janvier sur SBS On Demand. Mais bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier. L'épisode en décembre sur SBS On Demand est disponible sur notre site internet ainsi que sur les plateformes de podcast. Les films dont on y parle, tout est accessible gratuitement, on le répète, sur la plateforme SBS On Demand et ce, pendant encore plusieurs mois. «
Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt.
Eh bien, il est 13h41 minutes et 9 secondes et pour marquer les 80 ans de la libération d'Auschwitz cette semaine, on vous propose la rediffusion d'une interview de la réalisatrice Roselyne Bosch pour son film La Rafle. Ce film raconte la tragédie de la rafle du Veldiv en 1942 et de ces Juifs de France qui ont été déportés vers les camps de la mort nazis.
Oui, bonjour.
Parlons de votre film, parlons des différentes étapes de ce projet de tourner la rafle.
Oui, alors d'abord, ce sont des recherches. D'abord, c'est une idée qu'on a eue il y a une dizaine d'années, mais qu'on n'a pas osé mettre en œuvre, parce que je pense qu'il fallait qu'on attende d'abord d'en avoir un peu le courage, en tout cas pour moi, parce que je savais bien que je m'attaquais à une espèce de montagne de documents, d'une part, et puis aussi de tragédie, à une tragédie tellement forte, parce que si quand on parle de guerre, généralement, on parle de... si vous voulez, d'adultes qui s'en prennent à d'autres adultes en priorité. Et les autres pertes sont, comme on dit aujourd'hui, poétiquement collatérales, tandis que là, la rafle du Veldiv, c'est 13 000 personnes, dont 4 051 enfants déportés qui ne sont jamais revenus. Donc ça voulait dire beaucoup de souffrance à affronter. Et généralement, quand on le fait, on est seul parce que vous travaillez avec vos archives, vous lisez des choses, vous lisez des témoignages, vous récupérez des lettres. Et moi, ce qui me bouleversait le plus, c'était les lettres d'enfants. Elles ont été publiées, elles ont été collectées, souvent par Serge Klarsfeld, qui a été historien sur mon film, et qui me faisait parvenir des mots d'enfants de 10, 11 ans. Des enfants qui avaient été parfois raflés seuls, même sans leurs parents, car c'est arrivé, se retrouver dans les camps de Bonnard-Hollande, ou bien leurs parents avaient déjà été déportés, ils étaient seuls, et ils envoyaient des petits mots, y compris à leur concierge, qui finalement était la seule personne vers laquelle se tourner. Et je savais que face à moi, j'avais cette montagne de petits mots, de témoignages des infirmières et qu'il allait falloir s'accrocher. Parfois, c'était le cas, mais en fait, j'étais bien entourée. Tout le monde était, comment vous dire, très uni dans ce projet. Il y a des films, quand vous les faites, c'est pas des films, ce sont des causes. Celle-là, elle était juste et puis on avait envie de le faire savoir. Et ça ne faisait que trois lignes dans les livres d'histoire. Donc on s'est dit, on va le raconter vraiment frontalement. Et on l'a décidé avec Alain Goldman, qui en est le producteur, parce que cette histoire, évidemment, le touchait particulièrement. C'est une famille de Juifs de Montmartre, arrivée de Pologne dans les années 20, cette famille-là, très pauvre, et pour qui Montmartre, qui à l'époque n'était pas, si vous voulez, le quartier bohème chic qu'il est devenu maintenant, c'était très insalubre. Mais bon, les Juifs arrivaient des pays de l'Est, s'installaient là, ils étaient tellement heureux qu'il n'y ait plus de pogrom. Donc cette communauté s'est installée là, sa famille en était. Et au moment de la rafle, ils ont échappé à la rafle, d'un côté parce que toute une famille du côté de sa mère a décidé de s'enfuir en se disant « il faut qu'on se cache, on n'a pas confiance, on nous demande de porter l'étoile ». Et l'autre parce qu'ils sont partis au marché encore plus tôt que la rafle n'a commencé. À 4 heures du matin, ils étaient hors de chez eux. Quand ils sont revenus, la rue qui était entièrement juive avait été entièrement raflée. Et leur appartement était sous-scellé. Mais c'est grâce à tout ça, si vous voulez, qu'Alain Goldman est vivant, qu'il est là, qu'il existe. Et c'est aussi grâce à ça que le film s'est fait. Parce que je ne pense pas que moi, en tant que chrétienne, même concernée par les souffrances des autres communautés, je ne crois pas que je l'aurais fait si on n'avait pas été aussi proches et si tout ça ne m'avait pas touchée comme ça m'a touchée en ayant des enfants moi-même, vous voyez.
Oui.
C'est en fait ce qui nous a motivés. La motivation était vraiment très, très grande. Et je crois que c'est pour ça qu'on a tenu le coup pendant les 5 ans qui ont été nécessaires pour faire ce film.
On n'a jamais fait un film sur la rafle du Veldiv, c'est le devoir de mémoire.
Pour les générations futures, je dirais, vous voyez, parce que mon tempérament, moi je suis quelqu'un de la Méditerranée, je suis catalane, italienne d'origine, enfin beaucoup de choses mélangées, mais du Sud. Et en fait, ce sont des populations qui sont assez tournées vers le futur, vers l'espoir. Et en fait, ce que je voulais, c'était que les gens sachent ce qui s'est passé dans un pays qui avait inventé les droits de l'homme, qui avait fait la Révolution française, qui était une démocratie depuis déjà pas mal de temps, et comment tout pouvait basculer aussi rapidement, parce que je me dis que quand un homme averti en vaut deux, et que quand les populations savent ce qui s'est passé dans l'histoire, eh bien on a quand même quelque chance que ça ne se reproduise pas. Donc l'idée, c'était de le faire pour les jeunes et pour demain. Et voilà, c'est dans cette optique-là, si vous voulez, que je l'ai en tout cas écrit, puis ensuite réalisé.
Vous savez, sur l'affiche du film, il y a une citation de Joseph Weissmann en anglais. Il dit « It is important to tell this story to the youth of today. It is they who will write the story of tomorrow. »
Oui, c'est vrai, exactement. Indispensable, oui, c'est une très belle chose. Ça a été d'ailleurs indispensable de le rencontrer. Vous voyez, ça faisait partie de ce que je souhaitais faire. C'est-à-dire que, sachant que tout ça s'était terminé par de la tragédie et par de la mort, je me disais, il faut quand même qu'il y ait un peu d'espoir dans tout ça, et j'étais certaine que j'allais retrouver des survivants. Et Clarcel me disait, parmi les enfants qui sont montés dans les trains, impossible. Et puis, bon, si, il y a eu quelques évasions assez précoces dans le temps, c'est-à-dire que quand tout le monde a été regroupé au Vélodrome d'hiver, alors là, oui, on a eu, des gosses, des ados qui ont bousculé tout le monde et qui se sont enfuis. Mais moi, je voulais qu'on aille jusqu'au camp français, parce qu'il y a eu 200 camps en France, et rares sont les Français qui le savent, des camps avec des barbelés, des miradors, des chiens policiers, sauf que les uniformes étaient français. Et les gens qui étaient enfermés là, franchement, ça, ils n'avaient pas vraiment trois repas par jour. Et ça, on a complètement oublié que ces camps existaient, qu'ils ont existé dès 1940, qu'on y a mis les Juifs avant même que les Allemands le demandent, enfin... Toutes ces choses-là étaient inconnues. Donc, il me fallait, en gros, un survivant ayant vécu dans ces camps, ayant partagé le sort de tous ces détenus, et qui soit encore parmi nous pour raconter. Et là, Claire Fell me dit, mais Rose, c'est complètement impossible. Moi, j'en connais pas, je crois pas.
Comment a été cette rencontre avec Joseph Weissmann?
Oh ben, étonnante, parce que d'abord, je le cherche pendant 3 ans, ce témoin. 3 années, c'est long, et je le trouve pas. Et puis finalement, mon beau-père m'amène une cassette d'une émission de télé qui a 18 ans. Il met cette cassette et il y a un documentaire qui a 18 ans, vous voyez, qui n'est pas tout à fait nouveau. Et il y a une personne qui à l'époque est déjà âgée qui se met à témoigner. Il dit « J'avais 10 ans à l'époque et je me suis évadée du camp de Bonnard-Hollande à 10 ans, seule avec un petit copain. » Je me dis « Mais c'est lui mon personnage. » Sauf que quand vous avez une cassette qui a 18 ans, vous ne savez pas si cette personne est encore vivante, si elle est encore parmi nous, si elle est encore en France, est-ce qu'il a immigré, est-ce que... Voilà, je l'ai cherché partout, et finalement, j'ai trouvé sa trace dans une lettre qu'il avait adressée à Simone Veil, dont j'ai eu une photocopie. Cette lettre avait une adresse. À cette adresse, il ne correspondait aucun téléphone. C'était dans la ville du Mans, dans le Nord, en France.
Oui.
Et je me suis dit, la lettre avait 15 ans... Je me suis dit, c'est pas grave, j'envoie une lettre en lui disant, voilà, vous avez dit dans ce reportage, car c'est ce qu'il disait, écoutez bien, c'est ahurissant. Il disait en pleurant, je crois que personne n'osera jamais faire un film sur ce qui nous est arrivé. Et moi, je lui dis, ben écoutez, nous, ce film, on est en train de le faire, et si vous êtes encore parmi nous, ou vos enfants, que quelqu'un me rappelle parce que vous êtes le personnage principal. Et j'étais j'étais à l'aéroport, ce n'est pas une blague, en partance pour Los Angeles. Le bureau nous a appelés en disant, vous avez un certain Joseph Weissmann en ligne, et il dit que vous comprendrez. Et je dis, alors écoutez, parlez-lui tout de suite, dites-lui que dans 11 heures, j'atterris, et je vais l'appeler tout de suite. Et donc on s'est appelé, on s'est donné rendez-vous, et on s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Et puis on s'est tombés dans les bras l'un de l'autre, parce que, c'était tellement inouï qu'il y ait 15 ans, il ait envoyé ce message comme ça en l'air en disant peut-être que personne n'osera jamais, est-ce que quelqu'un osera jamais faire un film? Et puis que 15 ans plus tard, je retrouve ce message et qu'il devienne le petit héros de l'histoire. Donc une sorte de boucle dans le temps s'est bouclée comme ça. Mais dans ce genre de film, et Roman Polanski, quand il a fait Le Pianiste, il me l'avait dit, il m'a dit, il y a des concours de circonstances qui sont vraiment... étonnant, même si on ne croit à rien, c'est bizarre ce qui se passe avec ce type de projet.
Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 dessins.
Et voilà, c'était Jean Ferrat qui nous interprétait Nuit et brouillard. Et maintenant, depuis nos archives, un extrait d'une interview avec Francis Weber, qui a réalisé, bien sûr, le Dîner de cons qu'on connaît tous, dans lequel joue Jacques Villeray, qui a disparu il y a 20 ans. C'était le 28 janvier 2005. Extrait donc de cette interview de Francis Weber, réalisée en 2002 avec notre ancienne collègue Daniel Kemp.
Cher auditeur, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
J'ai le plaisir de parler à Francis Weber. Francis Weber, merci de cette interview et aussi bienvenue sur les ondes de radio SBS.
Ben merci de m'accueillir déjà.
Francis Weber, vous êtes plus ou moins une personnalité culte pour nous autres expatriés à l'étranger parce que vous nous faites rire avec des comédies qui sont tellement françaises.
C'est un beau compliment, vous savez, parce que le plus grand plaisir pour un auteur de comédie, c'est évidemment de faire rire les gens. Et moi, je sais que de temps en temps, quand je veux me récompenser un petit peu, je vais dans une salle de cinéma et j'attends le moment où les gens vont rire. Et c'est comme si on caressait le dos à un de mes films, vous voyez. Donc, c'est la plus belle récompense.
Et ce rire, véritablement, touche un air qui est universel ou une fibre qui est universelle. Parce que, quelles que soient les nationalités qui sont dans le théâtre, tout le monde rit.
Écoutez, pour l'instant, ça a l'air effectivement de s'avérer, puisqu'on a le film qui se passe en ce moment à la fois en Italie, en Espagne, qui vient de terminer une carrière bien brillante en Amérique, parce que le film sous-titré a fait près de 7 millions de dollars. Donc, film en français, si vous voulez, c'est des très beaux chiffres. Quand on pense que, bon, le Dîner de Cons avait fait 4,5 millions de dollars, le Paccard, lui, fait 7 millions de dollars ici. Ça, tout ça prouve qu'il y a quelque chose d'un peu universel, effectivement, dans cette inspiration-là, et ça me fait plaisir, parce que le marché français est une peau de chagrin, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'il a tendance à se rétrécir à cause de l'invasion de Hollywood. Et là, on se dit, bon, bah, si on peut arriver à toucher les gens ailleurs, c'est formidable, quoi.
Et le succès, finalement, quand on voit, par exemple, le Dîner de Cons qui a fait aussi un tabac extraordinaire, on s'aperçoit d'une chose, que si on veut un succès français sur une scène américaine, parce que c'est véritablement le grand concurrent, eh ben, il faut revenir à la source française, parce que c'est ça qui est véritablement différent.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, ce qu'on appelle la cuisine internationale, ce qu'on appelle la cuisine internationale, c'est-à-dire le saumon sauce verte qu'on mange dans certains hôtels, n'a pas grand intérêt. Ce qui s'exporte, c'est votre cuisine locale, si vous voulez. Et quand les Italiens faisaient des films véritablement italiens, je pense à des grands films comme, je sais pas, Divorce à l'italienne, ou comme les films de Scola, les films Le Pigeon, des films comme ça, ces films-là s'exportaient formidablement. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas essayer de faire, à mon avis, c'est de copier les Américains. Il faut garder son identité nationale et c'est là qu'on a peut-être une chance de s'exporter, effectivement.
Quand j'en avais parlé à Thierry Lhermitte, je lui avais dit, vous savez, le Dîner de Cons, ça me rappelle le film Ridicule. Mais le Ridicule se prenait au sérieux parce que c'était vraiment le 18e siècle. Et ben, c'était une version 20e siècle de Ridicule.
Oui, en tout cas, c'est vrai que la revanche des petits sur les nantis, le sujet est là. Moi, je trouve que c'est un peu facile de naître avec une petite cuillère en or dans la bouche, et puis je trouve que c'est un peu facile de naître, comme l'est le personnage de l'ermite, d'ailleurs, dans le Dîner de Cons, avec tant de fées qui sont réunies autour de votre berceau, si vous voulez. Vous naissez avec des beaux yeux bleus, 1m85, vous avez une femme luxueuse comme Alexandra van der Nusselt, et puis arrive cet étrange personnage qui est Villeray, c'est E.T. Villeray, c'est Quasimodo par rapport à l'ermite. Et il va y avoir une revanche, effectivement, de ce petit homme autour du berceau duquel aucune fée
ne s'est penchée.
Je ne sais plus qui disait récemment, un type genre Tim Seed qui était très drôle, il disait « Moi, quand les fées se sont penchées sur mon berceau, elles ont vomi. »
Oh, c'est dur !
J'ai trouvé ça atroce et en même temps tellement drôle dans l'autodérision, si vous voulez. Mais comme l'homme qui disait ça est un homme qui avait une réussite formidable, on se disait, en partant avec un tel handicap, ben c'est formidable de réussir à ce point-là. C'est comme Pierral, vous vous rappelez, l'acteur nain.
Oui.
Qui disait, ben moi, si je grimpe l'Everest, si j'escalade l'Everest, moi, je partirai de plus bas que les autres. Donc, je ferai non pas 8000 mètres, mais 8001 mètres rapport aux autres. Mon record sera plus intéressant. Ben, c'est un peu ça, quoi. Puis, ben, c'est un vrai plaisir de parler avec vous, d'abord en français. Ça me fait plaisir aussi. Et puis, en plus, vos références, votre culture, C'est un peu à mon tour de vous dire des choses gentilles. Hein.
Avec...
Vos références, votre culture et puis votre compréhension de ce que j'ai pu faire ben, m'a touché beaucoup et me fait plaisir.
Francis Weber, ça me fait aussi très très plaisir d'avoir eu ce premier contact. J'espère que nous allons garder le contact et que peut-être un jour vous viendrez en Australie à l'occasion d'un festival du film peut-être.
Ah, j'adorerais ça. Hein. J'étais pas très loin de l'Australie il y a pas très longtemps parce que j'étais au Fidji. J'ai hésité à venir et puis j'avais trop de travail et j'ai pas pu, mais tous les gens qui sont allés en Australie sont absolument dithyrambiques. J'ai mon assistant qui m'a dit que Sydney était devenue une des villes les plus vivantes du monde. Et j'ai très envie de voir tout ça. Et puis en plus, vous avez quand même un beau pays. C'est-à-dire l'Australie est un beau pays. J'adore nager, j'adore les plages. C'est quand même...
Alors là, vous seriez, si vous pouviez prendre des vacances, vous seriez très très gâté.
Ben, j'y compte.
Eh bien, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera.
Bah écoutez, tout ça était du miel pour mes oreilles.
Francis Weber, merci encore et peut-être à bientôt.
À bientôt, j'espère.
Et enfin, d'émission, un rappel des titres de ce 30 janvier. La police de Nouvelle-Galles du Sud enquête sur une école juive de la banlieue est de Sydney qui a été taguée de graffitis antisémites pendant la nuit. Le Mount Sinai College et une propriété voisine à Maroubra ont été pris pour cible. Et puis de nouvelles données suggèrent que plus de 80% des femmes envisageraient de quitter leur emploi si leur employeur ne prenait pas le harcèlement sexuel au sérieux. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous le week-end pour les émissions de samedi et dimanche à partir de 13h. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain, en live, à 13h de l'après-midi. Bonne fin d'après-midi, à bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.